chapitre 2, l'erreur ou le danger dans lequel ils étaient tombés, c'est l'impureté. Chapitre 1, les intérêts personnels. Chapitre 2, l'impureté. Au verset 14. Toute l'œuvre de leurs mains et ce qu'ils présentent est impur. L'impureté. Mais elle est partout autour de nous dans ce monde. Tout est impur. Nous côtoyons le mal à tout moment. Nous vivons, les jeunes qui sont là le savent bien, vivent dans une atmosphère complètement polluée, pour ne pas parler dans le vide, ou d'une façon trop abstraite, et les jeunes comprendront bien, on ne peut pas aller dans un kiosque de journaux choisir une revue sur la mécanique ou le jardinage ou autre, sans être souillé. C'est une réalité. Alors peut-être que quelqu'un dira, vous êtes bien sensible. Ce n'est pas nous qui sommes sensibles, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et l'Éternel avait dit au peuple d'Israël, mon ange ira avec vous. Ça, c'est la promesse. C'est très précieux que le Saint-Esprit soit en nous. Mais il ajoute, vous prendrez garde à vous à cause de lui. Vous prendrez garde à vous à cause de lui. Nous avons une personne divine qui est sensible au mal, qui est là, qui nous entoure de toutes parts. Alors il faut que les jeunes fassent attention, parce qu'on peut se souiller. C'est comme un terrain miné. Nos frères aînés qui ont fait la guerre le savent. Un terrain miné, il faut faire attention où on pose les pieds parce qu'on risque de sauter sur une mine. Et le monde, c'est ça. Tout est miné. Tout est corrompu, tout est impur. Et à côté de ces flèches pour la conscience, il y a ces paroles de consolation. Je suis avec vous. La présence de Dieu. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte, mon esprit. La parole, l'esprit de Dieu, un peu plus loin, l'espérance, l'objet du désir de toutes les nations. Voilà toutes les ressources qui sont placées par l'esprit de Dieu devant ce résidu qui avait besoin de flèches pour sa conscience. Ne craignez pas. Nous avons besoin encore aujourd'hui, et peut-être d'une façon très précise, d'entendre ces paroles du Seigneur, ne craignez pas quand nous aurions tout à craindre. Et puis, dans Zacharie, nous avons cette intercession et en figure celle du Seigneur. Au verset 12, le service sacerdotal du Seigneur, qui s'adresse à Dieu en disant, « Éternel des armées, jusque à quand n'useras-tu pas de miséricorde envers Jérusalem ?» Et puis, la réponse de Dieu, de bonnes paroles, des paroles de consolation. Oui, le Seigneur veut nous consoler, comme il voulait consoler son peuple. Et en somme, le réveil, le retour de la transportation, c'était une consolation de Dieu. Dieu consolait son peuple par ce réveil. Et là encore, on voit tout au long qu'il prend l'initiative. Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde, et ma maison y sera bâtie. L'Éternel consolera encore Sion. Il est fait allusion à ces quatre cornes qui ont dispersé Juda, ce sont les quatre grands empires. C'est vrai que c'est l'empire babylonien qui a dispersé Juda, mais les quatre sont vus comme dispersant Juda parce que les quatre grands empires ont été contre le peuple de Dieu. Dieu l'a permis. C'est son gouvernement que ces quatre cornes aient dispersé Juda. C'est très sérieux le gouvernement de Dieu envers son peuple. Le gouvernement d'un côté, ces quatre cornes, je les ai commandées pour qu'elles dispersent Juda, mais d'un autre part, je consolerai Sion, je consolerai encore Jérusalem. Et je serai au milieu d'elle sa gloire. Bien sûr, il y a une portée prophétique pour le temps de la fin. Mais ici, nous laissons ce côté-là prophétique pour parler surtout du temps où cette prophétie a été écrite. Alors au chapitre 3, nous avons un enseignement global, nous avons un enseignement général, c'est que là nous voyons que la sacrificature a les vêtements sales. Et dans un jour d'éloignement, c'est ce qui arrive. Le culte est défaillant. Au milieu de nous aussi, le culte est défaillant. Nos cultes n'ont pas la fraîcheur de ce qu'ils ont été. Parce que les sacrificateurs, et tous les croyants sont sacrificateurs, ont des vêtements sales. Si nous sommes droits devant le Seigneur, nous pouvons facilement le reconnaître. Mais alors, dans ce chapitre, ce qui est très beau, c'est de voir que là aussi, Dieu prend l'initiative. Josué, le grand sacrificateur, il n'a rien à dire. Il ne peut rien dire pour sa défense. Nous n'avons rien à dire pour notre défense. Nous sommes coupables. Nous avons les vêtements souillés. En tant que sacrificateur, c'est-à-dire pour l'adoration. Mais Dieu prend l'initiative de changer, de produire quelque chose, de changer les vêtements, de changer ce qui ne va pas. Au chapitre 3, c'est donc la sainte sacrificature. Au chapitre 4, c'est la sacrificature royale, c'est-à-dire le témoignage. Et au sein du peuple de Dieu, au sein d'un peuple affaibli, tout est défaillant. Chapitre 3, le culte. Chapitre 4, le témoignage. Si on lit avec attention ce chapitre 4, il est constamment parlé de lampe, d'huile. La lampe, c'est le témoignage. Et l'huile, c'est la puissance du témoignage. Alors, en méditant ce chapitre 4, on peut très bien penser aux trois formes de témoignage. Et surtout, envers le monde. Il y a le témoignage, notre témoignage journalier, personnel. Et ça, personne ne peut y échapper à cette obligation de témoigner envers ceux qui nous entourent. Et nous pouvons affirmer qu'un chrétien qui ne sent pas l'obligation de témoigner envers ses voisins n'est pas dans un bon état. Et la deuxième forme de témoignage, c'est cette parole de Paul à Timothée, « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Il n'était pas évangéliste, Timothée, mais il devait faire à l'occasion cette œuvre d'un évangéliste. Et la troisième forme de témoignage envers ceux qui nous entourent, envers les perdus, c'est le don d'évangéliste. C'est-à-dire cet équipement spécial, un don, c'est un équipement spécial pour porter un message. Témoignage personnel, fait l'œuvre d'un évangéliste, le don d'évangéliste. Mais pour tout cela, la puissance, c'est le Saint-Esprit. Ah, Zorobabel, fais attention, c'est ni force, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Dans ces trois sphères de témoignage, c'est l'esprit qui doit agir. Et c'est vrai que ce témoignage, et on peut dire aussi l'évangélisation, c'est un service très difficile parce que il y a quatre choses que nous ignorons. Nous les lisons dans Ecclésiaste 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais point quel est le chemin de l'esprit, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais point, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux seront également bons. Tu ne sais point quel est le chemin de l'esprit pour convertir mon voisin, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va agir. Je ne sais pas non plus comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte. Comment la vie de Dieu va-t-elle se former dans un homme? Je ne comprends pas. Ça m'est caché. Je ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Pourtant, il y a l'appel des âmes. Mais Dieu fait tout. Les deux choses. Je ne comprends pas l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un homme. Il faut donner un évangile, une Bible. Est-ce qu'il faut l'inviter à la réunion? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui réussira. Dans le chapitre 6, Voici un homme qui bâtira, c'est je bâtirai mon assemblée. Et dans le jour, dans les jours de tristesse que nous vivons, de faiblesse, nous avons besoin encore d'entendre cette parole qui demeure toujours, je bâtirai mon assemblée. Notre faiblesse, nos misères disparaissent devant cette parole. C'est le Seigneur qui bâtit. De notre côté, en Corinthiens 3, nous avons apporté beaucoup de foin, beaucoup de chaume, beaucoup de paille, et voilà, tout brûle. Mais le Seigneur bâtit. Bien sûr, ça a une portée prophétique pour l'avenir, révélée à Zorobabel. Et puis, encore un mot sur les chapitres 9. Là encore, il y a l'annonce de quelqu'un qui va venir. Voici ton roi vient à toi, et il est juste, ayant le salut, et humble, monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Ce verset qui est cité dans les évangiles. L'annonce de quelqu'un qui vient, comme dans Malachie, l'ange allait venir. Mais c'était une révélation pour Zorobabel et les anciens de Juda. C'est un moyen de restauration, de prospérer, quand nos yeux sont fixés sur le Seigneur. C'est pas toujours en regardant à nous-mêmes. Saint-Esprit nous amène à regarder à nous-mêmes pour nous juger. Et puis, au-delà, on a dit que c'était un péché. Le Saint-Esprit tourne toujours nos yeux vers le Seigneur. Dans le chapitre 9, dans tous les chapitres, particulièrement, il est parlé du Seigneur. Au chapitre 11, 12 et 13, nous avons des très beaux passages parlant du Seigneur. Dans le chapitre 11, il est peu estimé, estimé comme rien. Dans le chapitre 12, il est percé. Et dans le chapitre 13, il est blessé. C'est toujours le Seigneur. Alors là, à propos de ces trois passages, il y a plusieurs courants de pensée. D'abord, c'était une révélation pour Zorobabel et ses compagnons d'entendre parler de ce Messie qui allait venir dans quelques siècles après. L'Esprit de Dieu tournait leur regard vers l'avenir, vers le Messie qui allait venir. Les détournant de leur misère, de ces murs à moitié montés. Nous aussi, le Saint-Esprit tourne nos regards vers l'avenir, vers le Seigneur. Et puis, un autre courant de pensée, c'est qu'il y a quelque chose pour nos consciences dans ces trois passages. Si nous sommes faibles, individuellement et collectivement, et plus que faible, même misérable, c'est que nous avons peu estimé le Seigneur. Nous l'avons estimé comme rien. Et le résidu devra le reconnaître. Nous n'avons eu pour lui aucune estime. Isaïe 53. Et aujourd'hui, au milieu de nous, il faut que nous disions aussi, nous n'avons eu pour lui aucune estime, peut-être pas aucune, mais très peu, très peu. C'est même la source de toutes nos misères, c'est que nous n'avons pas estimé le Seigneur. Il faut lire dans l'Épître aux Philippiens comment l'apôtre Paul l'estimait, l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. C'est pour ça que dans cet Épître il n'est pas parlé du péché et la chair n'apparaît qu'une fois incidemment, mais parce que le terrain est déblayé par cette personne. Cet épître est rempli du Seigneur. C'est pour ça que... Et quand dans la vie d'un chrétien, le Seigneur remplit son cœur, remplit sa vie, le péché n'a plus de place, pratiquement, la chair non plus. Mais le point fondamental, c'est l'estime du Seigneur. Nous prenons un autre exemple, c'est Marie de Magdala. Le Seigneur remplissait son cœur. Elle ne connaissait pas toute la doctrine des épîtres, cette femme. Elle n'était pas écrite. Sûr que si elles avaient été écrites, ça aurait été la première à le lire. Mais la beauté et la puissance de la vie de Marie de Magdala, mais c'est que le Seigneur remplissait son cœur. Et quand le Seigneur lui dit son nom, Marie, elle répond, Maître, Rabboni. Alors que nous, parfois, si le Seigneur nous dit notre nom, nous répondons Sauveur. Et nous ne répondons pas Maître. C'est autre chose. Est-ce qu'il est le Maître dans ma vie? Est-ce qu'il est le Maître sur tous les départements de ma vie? Il l'était pour Marie de Magdala. C'était ça son instrument. Alors, ces 30 pièces d'argent, ce prix dérisoire, cette mauvaise estimation du peuple de Dieu, Dieu n'en veut pas. Jette-le au potier. Dieu n'en veut pas. Ah, c'est, dans un sens, c'est aussi un prix magnifique. Nous l'avons peu estimé. Ça a dû agir aussi sur la conscience de Zorobabel et de ce résidu. Ça doit agir sur la nôtre aussi. Et dans le second, nous l'avons percé. Quand on a percé le Seigneur, ça a été le dernier outrage qu'on a fait au Seigneur. Ici et là, peut-être aussi, nous avons outragé le Seigneur. Mais voilà ce que le Seigneur veut produire aussi vis-à-vis de ce manque d'égard que nous avons eu envers lui. Je répandrai sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, de supplication et un esprit de grâce. Ce verset, nous l'éprouvons, je crois que nous l'avons éprouvé vendredi à la réunion de prière ici, où vraiment le Seigneur répand sur nous un esprit de grâce et de supplication. Nous voyons très nettement comment nous avons outragé le Seigneur. Et il répand sur nous cet esprit de supplication et de grâce. Il sera un jour sur le résidu, comme en figure il l'a été sur les 10 frères de Joseph. Nous sommes dans la détresse qui était sur lui, elle est venue sur nous. Nous sommes coupables à l'égard de notre frère. C'est ça. Il se lamente, il pleure. Sur la faute. Et puis le troisième passage, nous l'avons blessé. J'ai été blessé dans la maison de mes amis. Nous sommes tous sensibles aux blessures que nos frères peuvent nous faire volontairement ou même involontairement. Nous sommes tous très sensibles à une blessure. Et surtout si elle est faite par des amis. Blessé dans la maison de ses amis. Est-ce que le Seigneur n'est pas blessé aussi parmi nous? Un frère, dans ce beau poème, « Levez vos têtes et regardez », frère André Gibert dit, le vrai deuil n'est pas fait d'hélas au redissant nombre. Sa tristesse est d'avoir blessé le Saint-Amour. Sa tristesse et d'avoir blessé le Saint-Amour. Alors, il faut reconnaître que nous avons blessé le Seigneur. Il y a un passage sur lequel nous n'avons rien dit, quand il est dit d'heureuses assemblées. Ça nous a beaucoup frappé de... Nous désirions tous avoir des réunions heureuses. D'heureuses assemblées. Mais qu'est-ce qui précède? Le jeûne. Le jeûne. Parce que si nous donnons des aliments à la chair, nous n'aurons jamais d'heureuses assemblées. Oui, dans ces trois derniers passages, le Saint-Esprit dirige les regards de ce résidu vers le Seigneur. Et c'est bien cela aussi notre ressource et notre bénédiction et ce qui nous fera prospérer. Chapitre 11, peu estimé. Chapitre 12, percé. Chapitre 13, blessé. Le Seigneur veut nous relever, toujours en regardant à lui. Les jeunes, les aînés, nous qui sommes entre les deux, notre ressource à tous, c'est de regarder vers le Seigneur. que nous avons peut-être peu estimé, que nous avons peut-être outragé, percé, que nous avons blessé. Mais si nous le reconnaissons, alors nous pourrons, comme ces anciens de Judas, prospérer spirituellement par cette prophétie, par la parole de Dieu.
Pour reprendre ces trois pensées qui ont été devant nous, où Dieu prend l'initiative, où Dieu envoie des flèches nécessaires, et en même temps Dieu nous encourage. On vient de le voir, cela vient de nous être dit, cela s'adresse à nous croyants. Mais je voudrais, en quelques mots, sur ces trois thèmes, m'adresser ici à peut-être un jeune homme, une jeune fille, un enfant chrétien qui n'aurait pas Jésus pour son sauveur. Dieu prend l'initiative. Je vais lire un verset que tout le monde connaît ici, certainement, que nous connaissons tous par cœur, mais je le rappelle quand même rapidement, il s'agit de Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Chers jeunes amis, chers enfants chrétiens, Dieu a voulu vous sauver. Dieu veut vous sauver. Il a voulu nous sauver. Et il a pris lui-même l'initiative en nous donnant Jésus. Je dis des choses très simples, connues d'entre nous, mais je crois qu'il faut que nous saisissions bien cette pensée que c'est Dieu qui a pris cette initiative de nous sauver. Nous étions, la parole de Dieu a des termes très, très forts, n'est-ce pas ? Elle nous dit que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et Dieu prend cette initiative de nous sauver. Et il nous est dit là, dans ce verset si connu de Jean 3, 16, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà Dieu prenant cette initiative pour nous sauver. Deuxième pensée qui a été devant nous, une flèche pour votre conscience. Je m'adresse ici, je le répète, à quelqu'un peut-être qui serait encore dans ses péchés. Il y en a probablement plusieurs dans les évangiles, même dans la bouche du Seigneur. Mais j'ai pensé à une toute simple dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 8. Le Seigneur s'adresse là à des incrédules, à des pharisiens. Et il leur dit au verset 23 de ce chapitre 8, 24, pardon, « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que c'est moi, Jésus, vous mourrez dans vos péchés. » C'est une parole très forte. Mais c'est une parole d'autant plus forte, chers amis, que c'est le Seigneur lui-même qui nous l'adresse. Et si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Qu'ajouter de plus à cela, chers amis ? Aucun commentaire, certainement. Vous le comprenez. Si vous ne croyez pas, la parole de Dieu, Jésus lui-même vous le dit aujourd'hui, eh bien vous mourrez dans vos péchés. Et vous savez bien, pour peu que la parole de Dieu vous soit familière, ce que représente cette mort dans vos péchés. Je n'insiste pas, l'heure étant là. Mais, chers amis, il y a aussi, et c'est sur cette parole de grâce, d'encouragement, sur ce troisième thème qui a été devant nous, que je voudrais encore, avant de m'asseoir, vous lire. Un verset aussi que vous connaissez bien. C'est dans Matthieu, il y en aurait beaucoup aussi, dans la bouche du Seigneur, et peut-être on peut souligner qu'il y a beaucoup de paroles de grâce dans la bouche du Seigneur et peut-être moins de ces flèches qui s'adressent à notre conscience. Tellement le Seigneur est rempli d'amour et de grâce. Un simple verset dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. La parole de Dieu est claire, nette. Mais d'un autre côté, cet appel incessant de la grâce, de la part du Seigneur, qui nous dit, qui vous dit encore, venez à moi. S'il y a quelqu'un ici qui se sente fatigué sous le poids de ses péchés, qui disent, oui, je suis pécheur perdu. Le Seigneur vous dit encore, aujourd'hui, dans cette salle, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Il y a, je le répète, beaucoup de paroles, d'appel, de paroles de grâce dans la bouche du Seigneur. J'ai pensé à celle-là, je vous la laisse sur le cœur. Il vous dit encore aujourd'hui à vous, chers jeunes amis, chers enfants, venez à moi, venez à moi. Nous ajoutons peut-être, le temps presse, le temps passe, mais venez à moi, et moi, Jésus, moi, je vous donnerai du repos.